êtes bien à l'écoute de Radio France Internationale, 6h30 ici à Paris, 5h30 à Kinshasa. Et bonjour Martin Guez.
Accueilli avec du Burna Boy, c'est tout ce qu'on aime. Bonjour Jeanne Bartoli, bonjour à toutes et à tous.
Émotion et réaction dans le monde entier, Martin, après l'élection du pape Léon XIV.
A commencé place Saint-Pierre à Rome, où le nouveau souverain pontife a pris la parole pour la première fois hier soir, appelant à la paix pour tous. Place Saint-Pierre, où les drapeaux américains et péruviens étaient de sortie. Drapeau congolais aussi, vous entendrez le témoignage d'un étudiant venu de RDC. La RDC, où les inondations dans le Tanganyika ont fait de gros dégâts à Kalemi, au sud-est du pays. 4 personnes sont mortes en début de semaine. Le Conseil de sécurité de l'ONU prolonge pour un an la mission de la MINUS, force de maintien de la paix au Soudan du Sud, alors que le pays connaît un regain de violence ces dernières semaines. Au Mali, les partis politiques rejettent la suspension de leurs activités décidée mercredi par les autorités de transition. Et puis le Sénégal en demi-finale de la Coupe du Monde de Beach Soccer après un match fou remporté face à l'Italie aux Seychelles. On prendra des nouvelles des Lions des Sables avec Antoine Grenier dans le Journal des Sports. Les cloches ont sonné hier soir dans le monde entier, à Notre-Dame de Paris, à Notre-Dame du Congo. Et bien sûr, place Saint-Pierre, à Rome, la fameuse fumée blanche est sortie de la cheminée vers 18h au Vatican. Après seulement 4 tours de vote au conclave pour consacrer Léon XIV, Robert Francis Prévost. À l'état civil, premier américain à devenir pape dans l'histoire, le cardinal de 69 ans qui possède aussi une carte d'identité péruvienne. Lui qui a passé près de 20 ans au Pérou, devant une foule en liesse, il a fait hier sa première apparition et a adressé un message de paix auprès d'un 1,5 milliard de catholiques du monde entier. Parmi les premiers à l'apercevoir au pied de la loggia de la basilique se trouvait Adolphe Mulengezi, étudiant congolais très sensible à ce discours de paix. Il y voit un espoir pour son pays, la RDC.
Ce que j'ai ressenti pour moi en écoutant la première parole du pontife parler de la paix, moi comme congolais, vécu plus de 30 ans de guerre dans mon pays. En tout cas, j'ai ressenti une très grande joie et puis un soulagement. Et puis j'ai dit, pouf, et c'est la paix que nous cherchons, nous en avons tellement besoin. Et puis je me suis dit, si le pape vraiment travaille avec toutes ses forces et aussi avec d'autres leaders pour trouver la paix durable dans le monde, ça serait aussi une très belle chose pour la République démocratique du Congo. Et comme vous le savez, quand le pape François a visité la RDC, et il a aussi insisté sur la paix en République démocratique du Congo, parce que nous avons tellement besoin de cette paix et aussi créer aussi des liaisons, des liens avec toutes les cultures du monde qui existent. Comme disait aussi Père François, siamo una chiesa in uscita. Donc l'Église en marche. Nous devons toujours aller vers. Donc c'est ça ce que nous devons faire comme Église. Vraiment, de mon côté, c'est une grande joie.
Des propos recueillis par notre envoyé spécial au Vatican, Nicolas Rocca. Léon XIV, déjà à l'ouvrage ce vendredi, il célébrera ce matin une messe privée avec les cardinaux et prononcera sa première homélie en tant que pape, un moment toujours très attendu. Une élection qui a bien entendu suscité des réactions dans le monde entier. Au Nigeria, deuxième pays africain en nombre de fidèles catholiques, le président Bola Tinubu a déclaré que l'arrivée de Léon XIV ouvre un nouveau chapitre dans les valeurs d'amour et de charité, en particulier vers les plus défavorisés. Et puis le chef d'État sud-africain Cyril Ramaphosa a particulièrement apprécié l'appel à la paix du nouveau pape qui honore l'héritage de François. L'élection de Léon XIV, on en reparle dans quelques minutes avec Isidore Ndaiwel, figure de l'église catholique congolaise. Il est ce matin notre invité. Et puis ne ratez surtout pas notre grande édition spéciale autour de Julien Coquel-Rouem, une heure complète pour apprendre à connaître ce nouveau pape. Rendez-vous dès 6h, temps universel.
RFI.
En RDC, les pluies diluviennes en début de semaine dans le Tanganyika, au sud-est du pays, ont fait 4 morts et près de 1800 sinistrés. Selon les autorités congolaises, les rivières Lubuye et Calais sont sorties de leur lit et ont inondé plusieurs quartiers de la ville de Kalemi. Les installations ferroviaires ont été endommagées, les bureaux des services publics installés sur le port sont hors service et l'avenue Lubumba, la principale artère de la ville, a été coupée. De nombreuses écoles ont aussi été en partie ou complètement détruites, Denise Mayo.
2 jours après les inondations à Kalemi, John Kafindo, l'un des sinistrés au quartier d'Ave, raconte.
Un voisin nous a cédé une maison où nous logeons seulement les enfants. Mais la nuit, nous sommes obligés de rentrer dans la maison dans l'eau comme ça parce que une fois vous vous déplacez, vous donnez l'accès aux voleurs qui viennent arracher portes, fenêtres et tout ce qu'ils trouvent dans la maison.
Au quartier Kichanga, la rivière Lubuye qui a quitté son lit a fait des victimes. Témoignage de Louston Beleleboami, jeune du quartier.
Des jeunes gens sont venus porter secours à ceux qui étaient bloqués. L'un d'eux a attaché un bébé de 4 mois sur son dos avec un pagne. En traversant le courant, le pagne a cédé et le bébé a été emporté par la rivière.
Kalemi connaît des inondations depuis la saison passée avec des dégâts importants. Ce mercredi à l'Assemblée nationale, Christian Mwando, élu du Tanganyika, a appelé le gouvernement à agir.
Que le gouvernement de la République décrète l'urgence humanitaire dans la ville de Kalemie. Qu'il mette en place la prise en charge des familles sinistrées et qu'il diligente des travaux de réhabilitation des infrastructures indispensables à la vie communautaire.
Pour l'heure, des centaines de sinistrés se sont réfugiés au stade de Joseph Kabila ainsi qu'à l'école du cinquantenaire.
Denis Maéo, la RDC toujours, où s'est rendu mercredi le ministre togolais des Affaires étrangères Robert Dussey, qui a été reçu par le président congolais Félix Tshisekedi à Kinshasa. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la médiation togolaise menée par le président Faure Gnassingbé. L'objectif de cette médiation est de parvenir à un accord de paix d'ici à la fin du mois de juin entre la RDC et le Rwanda. Plus de détails à retrouver sur notre site internet, article complet à ce sujet à lire sur le www.rfi.fr. Direction New York, à présent, où le Conseil de sécurité de l'ONU a renouvelé le mandat de la MINUS, la mission de maintien de la paix au Soudan du Sud. Mandat renouvelé pour un an, les Nations Unies qui exigent toujours la fin immédiate des combats. La MINUS qui peut compter jusqu'à 17 000 militaires et plus de 2 000 policiers. Elle pourra ajuster ses effectifs en fonction de ses besoins et des conditions de sécurité sur le terrain. Alors que le Soudan du Sud connaît un regain de violence ces dernières semaines, la reprise des combats dans l'état du Nil supérieur au nord fait craindre une nouvelle guerre civile dans le jeune pays. Certains membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont par ailleurs demandé au gouvernement transitoire de Djouba de cesser d'entraver le travail de la MINUS. Précision depuis New York, Karine Auton.
La majorité du Conseil de sécurité, emmenée par les États-Unis, n'est pas satisfaite du traitement de la MINUS par le gouvernement de transition et craint que la force onusienne ne puisse jouer son rôle stabilisateur. Le risque pour le Soudan du Sud de retomber dans un conflit ethnique reste haut, compte tenu de la reprise des combats. L'ambassadrice américaine par intérim, Dorothy Shea.
Pour obtenir la paix et éviter une reprise de la guerre civile, le gouvernement de transition doit donc agir de toute urgence. Pour mettre fin à la violence et désamorcer les tensions politiques, le vice-président Machar doit être libéré de sa détention et un règlement doit être trouvé entre les parties du conflit.
Par ailleurs, Washington refuse d'allouer plus de fonds pour des élections sans cesse retardées. Russie, Chine et Pakistan se sont quant à eux abstenus sur ce renouvellement de la MINUS pour défendre la souveraineté du jeune pays. Le groupe africain du Conseil, qui a voté pour, a malgré tout souligné la demande du Soudan du Sud de mise à jour régulière sur le transfert de la base de Tomping, un transfert sur lequel la MINUS et le gouvernement de transition se seraient entendus. Karine Auton, New York RFI.
Au Soudan, nouvelles attaques de drones hier sur Port-Soudan, mais aussi sur Khartoum. Médecins sans frontières fait état de 2 morts et de nombreux blessés, attaque attribuée aux paramilitaires des FSR. Les forces de soutien rapide du général Emeti, en guerre depuis maintenant plus de 2 ans avec l'armée du général Al-Bourhan. La Chine a hier appelé ses ressortissants à quitter immédiatement le Soudan, alors qu'un rapport d'Amnesty International démontre que les Émirats Arabes Unis ont fourni aux FSR des armes chinoises. Au Mali, les partis politiques rejettent la suspension de leurs activités. Une suspension des partis, annoncée mercredi sur décret du président de la transition, le général Assimi Goïta, pour raison d'ordre public. Et hier, une centaine de partis politiques ont publié un communiqué commun, communiqué daté du 7 mai, pour expliquer qu'ils rejetaient cette suspension jusqu'à nouvel ordre de leurs activités. Suspension qui ne concerne pas que les partis, mais aussi les associations à caractère politique. Suspension qui intervient en moins d'une semaine après le début d'un mouvement de contestation inédit, Magali Lagrange.
Indignés mais pas surpris, les partis politiques pour la Constitution rejettent catégoriquement la suspension de leurs activités qui s'inscrit selon eux dans une tendance systémique de restriction de l'espace civique et politique par les autorités maliennes de transition. Tout en dénonçant des actes d'intimidation et de violence à leur encontre, les partis politiques maliens annoncent leur décision de lancer une procédure judiciaire en urgence pour tenter d'obtenir l'annulation de la suspension de leurs activités, une mesure qui porte atteinte aux libertés fondamentales d'association, d'opinion et d'expression. Pour eux, le décret est illégal. Aucun fait précis, rappelle-t-il, n'est reproché aux partis politiques. La charte qui les régit est toujours en vigueur au Mali et celle-ci ne donne pas à l'autorité administrative le pouvoir de suspendre un parti, une compétence exclusive des tribunaux. Les partis politiques maliens appellent donc les autorités de transition à la levée immédiate d'une mesure qui qu'il juge liberticide et démocraticide. Toutes les composantes de la société malienne, disent-ils, doivent pouvoir participer à la vie publique.
Magali Lagrange, un nouveau rassemblement était prévu ce vendredi, rassemblement finalement reporté. Dans un nouveau communiqué diffusé hier soir, les partis ont condamné les manœuvres visant, selon leurs mots, à provoquer des affrontements violents entre Maliens lors de ce rassemblement prévu. Ils dénoncent aussi des menaces sur les réseaux sociaux. Enfin, en Afrique du Sud, une bien étrange hécatombe de vautours. Cela se passe dans le célèbre parc Kruger. Selon l'agence des parcs nationaux sud-africains, 123 rapaces de différentes espèces en voie de disparition sont morts après avoir ingéré les restes empoisonnés d'un éléphant. Retour sur cette morbide découverte avec Igor Strauss.
La carcasse du pachyderme servait d'appât. Elle avait été préalablement imprégnée de pesticides par des braconniers sans scrupules, une méthode de plus en plus en vogue en Afrique australe pour cibler des espèces comme le lion, dont les organes sont prisés dans la médecine traditionnelle, mais qui fait de nombreuses victimes collatérales. John Davis de la fondation Endangered Wildlife Trust.
L'empoisonnement de la faune sauvage est une catastrophe. Des animaux comme les vautours sont particulièrement touchés, même s'ils ne sont pas la cible initiale. Ils peuvent parcourir de grandes distances et découvrir des carcasses très facilement. Et quand l'un d'eux commence à manger, les autres le suivent. Des centaines d'oiseaux peuvent donc être empoisonnés en même temps sur un site.
Souffrant d'un certain désamour en raison de leur statut de charognard et d'un manque d'élégance, les vautours jouent pourtant un rôle essentiel, comme le rappelle John Davis.
L'Inde est un exemple concret. Quand les vautours ont été décimés dans les années 80-90, le nombre de chiens errants a considérablement augmenté et de nombreux Indiens ont contracté la rage. Pour le système de santé du pays, c'était une catastrophe.
Ce cas d'empoisonnement est le plus grave depuis 2019. À l'époque, plus de 500 vautours avaient trouvé la mort dans des circonstances similaires dans un pays voisin, le Botswana.
Igor Strauss du service environnement de RFI à Pretoria comme à Paris. Il est 6h42, l'info continue sur RFI.
Afrique Matin sur RFI.
Et à suivre dans les prochaines minutes, l'historien congolais Isidore Daywell, pas vraiment déçu que le nouveau pape ne soit pas africain. Isidore Daywell, figure de l'église catholique de RDC, coordinateur du comité laïque de coordination, invité ce matin de Christophe Boisbouvier. Matinée tout terrain sur RFI, nous serons à Garoua, dans le nord du Cameroun. 3 ans après la CAN, la ville fait ses comptes. Reportage à suivre de Charlotte Cossé. Et puis sur les rings, le natif de Dakar, Souleymane Sissoko, dispute le combat le plus important de sa carrière demain à Malabo, en demi-finale WBC des moins de 67 kilos. Mais tout de suite, direction le sable chaud des Seychelles, place au journal des sports. Bon, désolé pour vous Antoine Grenier, vous n'êtes pas vraiment aux Seychelles, vous êtes ici en studio avec moi. Bonjour Antoine, bonjour à tous.
On fait ce qu'on peut, bonjour Martin.
Le football à la une et une finale donc 100% anglaise pour commencer en Ligue Europa.
Tottenham a gardé son sang-froid même au cercle polaire en confirmant à Bodo son succès initial de Londres. Les Spurs s'imposent 2-0 sur les Norvégiens et ils retrouveront Manchester United. Les Red Devils vainqueurs 4-1 de l'Athletic Bilbao à Old Trafford. Après le succès 3-0 du match aller, les Mancuniens avaient un matelas suffisant pour ne pas paniquer après l'ouverture du score des Basques. United en finale. Enfin, une bonne nouvelle au cœur d'une saison cauchemardesque. De quoi décrocher un sourire au défenseur français Lenny Yoro.
Honnêtement, c'était une très belle soirée. Voilà, je pense que ça a été difficile au début parce qu'on a pris le premier but. On voulait vraiment pas encaisser ce but pour pas se mettre en difficulté. Après, voilà, je suis fier de l'équipe. On a su rebondir. On a su mettre ce 4-1 et assurer la qualification. C'est vrai que en première ligue, on n'a pas fait de très bons résultats. Voilà, on n'est pas forcément fiers de nous par rapport à ça. Mais voilà, on a su assurer en Europa League. Après, voilà, le job, il n'est pas encore fini. On a une finale à jouer. Si on perd en finale, ça ne sert à rien d'avoir fait tout ce parcours. Donc voilà, maintenant, on est focus sur la finale. On espère pouvoir gagner ce trophée.
Lenny Yoro chez nos confrères de Canal+. Retour à Bilbao en perspective pour Manchester United, puisque c'est là que se disputera la finale de la Ligue Europa. Elle aura lieu le 21 mai prochain.
Le Chan également à la une ce matin, Antoine, avec un match retour des éliminatoires additionnels.
L'Algérie et la Gambie face à face pour l'avant-dernier ticket pour l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie cet été. Algériens et Gambiens se sont neutralisés 0-0 au match aller la semaine dernière. Ils se retrouveront à 18h temps universel au stade du 19 mai 56 d'Annaba.
La CAN des moins de 20 ans en Égypte. À présent, le Sénégal et la RDC au rendez-vous des quarts de finale.
Malgré la défaite des Congolais face aux Sénégalais 2-0 grâce au but de Cheikh Tidiane Thiam et Ibrahim Dieng sur penalty, le Sénégal prend la deuxième place du groupe C devant la RDC, meilleure troisième, et derrière le Ghana Ghana qui termine premier après sa victoire 1-0 sur la Centrafrique. Ce vendredi, fin de la phase de groupe avec deux rencontres de la poule A. L'Afrique du Sud affronte la Zambie à 18h TU en même temps que Tanzanie-Égypte.
Et comme promis, on enlève les crampons, on file sur les plages. Le beach soccer, le Sénégal qui se hisse en demi-finale de la Coupe du Monde.
Les Lions qualifiés en éliminant ce jeudi l'Italie, vice-championne du monde en titre. À 2 secondes de la fin de la prolongation, Mamour Diagne a inscrit le but victorieux. 4-3, les Sénégalais passent au mental, exultaient leur gardien et capitaine Alcène Ndiaye.
On vient de très loin parce que on a éliminé aujourd'hui le vice-champion du monde qui est l'Italie, qui est une grande équipe de beach soccer. Mais comme on l'avait dit, donc nous, notre objectif c'est de gagner cette coupe. En demi-finale, on a la Biélorussie qui nous avait battu lors de la précédente Coupe du Monde 6-3. Donc je pense que c'est une revanche, mais on viendra avec beaucoup d'engagement et de détermination. Comme je l'ai dit, nous avons une tête envers le peuple sénégalais.
Sénégal, Biélorussie, première demi-finale de la Coupe du Monde de beach soccer. Ce sera samedi à 14h, temps universel. L'autre demi opposera le Portugal au Brésil.
Merci beaucoup, Antoine Grenier. On vous retrouve dans une heure pour le prochain Journal des Sports. Et on reste sur les terrains, ou plutôt sur les rings. Le continent africain, qui a sûrement accueilli le plus grand combat de l'histoire du Noblard, c'était en 1974, Ali Foreman, à Kinshasa, le combat du siècle pour beaucoup. Mais aujourd'hui, peu de rencontres ont lieu en Afrique, et un natif du continent va lui mettre les gants à Malabo, en Guinée équatoriale. Souleymane Sissoko est né à Dakar. Il a certes remporté une médaille de bronze olympique en 2016 sous les couleurs françaises. Il faisait à l'époque partie de la team solide avec Tony Yoka. Eh bien, le boxeur de 33 ans fait désormais face au combat le plus important de sa carrière. Une demi-finale mondiale des moins de 67 kilos face au Lituanien Egidijus Kavaliouchkas. Souleymane Sissoko, que Sofiane Amazian a rencontré avant qu'il ne saute dans l'avion pour Malabo reportage.
Moi, lorsque j'étais un peu plus jeune, lorsque je voyais Ali boxer à Kinshasa, c'était fou. Et lorsque j'ai une proposition de pouvoir boxer en Afrique, mais j'ai sauté dessus.
Calme mais plutôt déterminé, Souleymane Sissoko, habillé tout en noir, ne chôme pas avant de décoller vers Malabo. Une séance de sparring à haute intensité, la sueur coule, les coups pleuvent et les casques encaissent les droites. Parfaitement remis de sa blessure à la main contractée en fin d'année 2024, Souleymane Sissoko compte les jours avant son combat en Afrique.
Ça fait partie de moi, partie intégrante de moi. Je suis très investi aussi là-bas sur l'aspect associatif, etc. Et je puise énormément de force là-bas.
Acteur de l'organisation de la soirée, Souleymane Sissoko a vu les choses en grand. Seront présents sur la carte le petit-fils de Mohamed Ali, Nico Ali Walsh, et un boxeur de renom né au Cameroun, Kevin Lele Sadjo, grand fan du médaillé de bronze avec la France lors des Jeux de Rio en 2016.
C'est quelqu'un que j'admire beaucoup, sur le ring et en dehors du ring. Pas son humilité, son intelligence, style vraiment avec cet événement, relancer la boxe en Afrique pour les jeunes Africains, pour le public africain, parce qu'il y en a beaucoup qui souffrent, qui ont besoin de moteurs, et on a un moteur aujourd'hui qui est Souleymane Sissoko. On ne peut que l'encourager à aller vers l'avant.
Au niveau soutien psychologique pour Souleymane, ça lui fait plaisir d'avoir Kevin à ses côtés qui boxe dans la même soirée.
Karim El Ayani est le coach principal de Kevin Lele Sadjo, lui aussi engagé il y a quelques semaines dans une demi-finale mondiale qui ne s'est finalement pas tenue. La présence d'un autre gros nom à Malabo, qui plus est un ami, devrait rassurer Souleymane Sissoko.
Malgré que ça reste un sport individuel, dans la boxe il y a toujours un esprit d'équipe. Et voir les gens qu'on apprécie être à ses côtés à ce moment-là, ça fait toujours plaisir.
À travers cet événement inédit qui doit raviver la flamme de la boxe en Afrique, le natif de Dakar voit déjà d'autres opportunités à l'avenir.
C'est un test en tout cas pour la Guinée équatoriale, c'est un test, mais je sais qu'eux, ils ont à cœur d'organiser d'autres shows, d'autres événements. La boxe est aimée partout en Afrique, ça reste le noblard, ça reste un sport qui plaît.
Une victoire face à Egidijus Kavaliouchkas, c'est la route pour la ceinture va se dégager. Souleymane Sissoko, champion du monde, l'objectif d'une vie, la suite, une défense de titre si possible au Sénégal, chez lui à Dakar.
Reportage signé Sofiane Amazian. Souleymane Sissoko qui boxera donc demain soir face au Lituanien Egidijus Kavaliouchkas en demi-finale WBC des moins de 67 kilos. On suivra bien sûr tout ça sur RFI.
RFI, toute l'actualité, Martin Guez.
RFI vendredi 9 mai 2025, outre l'élection d'un nouveau pape sur laquelle on revient largement ce matin et notamment dans notre édition spéciale. Rendez-vous entre 6h et 7h, temps universel. L'actualité internationale marquée aussi aujourd'hui par la célébration de la capitulation de l'Allemagne nazie par la Russie. Capitulation signée le 8 mai vers 23h, heure de Berlin. Mais il était déjà 1h du matin, le 9 mai, à Moscou en 1945, d'où cette différence dans les journées de commémoration. Un défilé militaire prévu sur la place rouge dans la capitale russe. Plusieurs dirigeants étrangers sont annoncés. Xi Jinping, Lula, Nicolas Maduro, mais aussi Denis Sassou Nguesso, le maréchal Khalifa Haftar et le chef de la junte burkinabé, Ibrahim Traoré. C'est aussi aujourd'hui la journée de l'Europe. Et à cette occasion, Emmanuel Macron accueille le Premier ministre polonais Donald Tusk. Les deux dirigeants vont signer un traité à Nancy, ville de l'Est de la France, symbole des liens entre les deux pays. Un accord commercial trouvé entre le Royaume-Uni et les États-Unis, les deux pays qui saluent un document historique. C'est pour le moment un compromis en forme de trêve dans la guerre commerciale menée par l'administration Trump. On n'a pas encore tous les détails, mais on sait que la surtaxe de 25% imposée par les États-Unis sur les voitures importées devrait être réduite à 10% pour les véhicules britanniques. Et puis on connaît les affiches des petites finales, des petites coupes d'Europe de foot. Ce sera une affiche 100% anglaise avec Manchester United Tottenham en Ligue Europa et puis Betis Séville Chelsea en Ligue Europa Conférence. Un peu de foot toujours, souvenez-vous, c'était il y a 3 ans le Sénégal qui remportait sa première Coupe d'Afrique des Nations, compétition organisée au Cameroun et qui s'était notamment déroulée sur les terres de la star camerounaise Vincent Aboubakar à Garoua, capitale du nord du pays, le stade Roumdé Adja qui avait abrité des matchs de poule, un huitième de finale et un quart de finale. C'était un véritable défi organisationnel pour la ville qui avait dû s'adapter et se doter d'infrastructures, qu'elles soient sportives et hôtelières. Alors 3 ans après, quel héritage pour Garoua? La CAN fait-elle encore recette? Reportage, Charlotte Cossé.
Au marché de Garoua, les vendeurs attendent patiemment les clients devant leurs étals. La CAN, Sidiki était fier de l'avoir dans sa ville, mais pour lui, aucun avantage à avoir accueilli cet événement.
Même pas un peu, même pas un tout petit. Avant, on achetait un litre d'huile à 1000 francs. Arrivé la CAN là, l'huile a quoi augmenté jusqu'à 1500. On est en colère, mais on ne paye rien.
Même son de cloche du côté d'Abdoulaye.
La CAN, bon, je ne vois pas. On souffre, il y a des rues qu'on a réaménagées, effectivement. Dans la ville, on peut dire oui, mais pour quitter de Garoua pour Ngaoundéré, c'est 9 heures du temps. Du côté de l'extrême nord, c'est encore pire.
Le projet CAN a cependant permis de voir des changements notables dans la physionomie de la ville. Par exemple, un hôtel imposant, 4 étoiles et sorti de terre, le Ribadou, 85 chambres, 96 personnels embauchés. Beaucoup étaient sceptiques quant à la pérennité d'un établissement d'un tel standard dans la région. Alain Mathieu Mbilongo, son directeur général.
Maintenant que la CAN est venue rendre la ville un peu plus attractive, ça fait que de plus en plus le tourisme d'affaires est de plus en plus important. Les balades touristiques, je crois que ce qui était d'emblée difficile est aujourd'hui plus facile. Moi, je peux dire que je suis même très satisfait par rapport à ce qui était attendu par ma maison mère. Nous étions à demander à 37%, nous sommes à 57%, le taux de remplissage. Moi, je pense qu'il faut quand même s'en féliciter.
Pour Abdoul Baghi, le directeur de l'urbanisme de la communauté urbaine de Garoua, directeur des services techniques à l'époque, 3 ans après, il ne fait nul doute que la capitale du Nord bénéficie encore des retombées de la CAN.
Après la CAN, on s'est retrouvé dans une situation où la ville a entamé une évolution un peu exponentielle. Ce n'était pas une évolution qui était prévue. On pensait avoir environ dans les 900 000 habitants en 2025, mais aujourd'hui on est au-delà de 1 million. La valeur foncière dans la ville tournait autour de 2500 à 3000 francs le mètre carré. Et aujourd'hui, on tourne autour de 10 000 à 20 000 francs le mètre carré. On a des nouvelles constructions qui naissent chaque jour. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont installées et ça veut dire aussi que l'économie de la ville va bien.
Grâce au développement de la ville, le budget de la municipalité a doublé. Aujourd'hui, Garoua cherche à améliorer son système de traitement des déchets et a pour projet de développer son transport urbain avec des bus électriques. Le chômage des jeunes reste cependant un défi majeur. Charlotte Cossé, de retour de Garoua, RFI.
Et Africa d'économie à réécouter quand vous le souhaitez sur notre site internet RFI.fr et sur notre application Pure Radio. Tout de suite, place à notre invité. Un Américain au Saint-Siège, Robert Francis Prévost, très ému hier derrière ses lunettes au moment d'endosser son nouveau costume, celui de pape, le natif de Chicago, qui a donc choisi le nom de Léon XIV, une ascension fulgurante pour cet homme d'église de 69 ans. nommé cardinal il y a seulement 2 ans par François. Alors comment réagit-on à Kinshasa après ce choix du conclave? La RDC est l'un des pays d'Afrique où le pouls de la chrétienté bat le plus fort. Et l'une des grandes figures de l'église catholique congolaise, c'est l'historien Isidore Daywell, coordinateur du puissant comité laïque de coordination, très proche de Monseigneur Fridolin Mbongo, cardinal archevêque de Kinshasa. Isidore Daywell, invité ce matin de Christophe Boisbouvier, qui lui a d'abord demandé s'il n'était pas trop déçu que le nouveau pape ne soit pas africain.
Pas spécialement, parce que pour nous en Afrique, lorsqu'on parle du pape, il n'est pas vraiment question de nationalité. Nous sommes d'ailleurs étonnés de voir qu'ailleurs on en parle beaucoup. Pour nous, le Saint-Père est un père, et un père, on l'accepte, on l'accueille. Et donc là, il nous est donné de passer d'une espérance à une autre avec ce nouveau pape. Donc peu importe ses origines, nous avons accueilli avec beaucoup de joie Jean-Paul II, sans trop nous poser des questions sur le fait qu'il soit polonais ou pas, François de même, qu'il soit argentin ou pas, il en est de même pour ce nouveau pape, Léon XIV.
Mais vu la vitalité des catholiques en Afrique, est-ce qu'il n'était pas temps que l'Église se donne un pape africain?
Mais nous avons du temps. Nous sommes sûrs que cela se fera dans l'avenir, mais nous ne sommes pas spécialement pressés, ça ne devait pas être nécessairement maintenant, ça aurait pu l'être, mais que cela ne l'ait pas été, ce n'est pas grave, c'est très bien aussi.
Mais vous qui êtes très proche de Monseigneur Fridolin Mbongo, est-ce que vous n'avez pas espéré que ce serait lui?
Mais c'était normal que je puisse espérer cela, sans non plus me faire trop d'illusions en me disant que ça peut être lui comme ça peut ne pas être lui. S'il l'avait été, ça aurait été très bien. Mais s'il ne l'a pas été, c'est très bien aussi. Donc nous, en Afrique, nous n'en faisons pas un problème. Nous accueillons le Père qui nous a été donné et qui est donc maintenant Léon XIV.
L'historien Isidore Daywell, invité ce matin de Christophe Boisbouvier, entretien retrouvé dans la longueur dans 3 quarts d'heure. Le sport, c'est le fair play et non la guerre, chante le Malien Askia Modibo dans son tube Les Aigles du Mali. Un thème qui inspire ce matin Charlotte Tamac pour la parlotte de Charlotte. Charlotte, dans la vie quotidienne comme dans le sport, il faut savoir faire preuve de fair play.
Oui, le fair play dans le sport, c'est respecter les règles et avoir du respect pour l'adversaire. Quelles que soient ses différences, c'est assumer ses victoires et ses échecs avec classe. Être fair play, c'est maîtriser la technique, mais surtout savoir gagner ou perdre avec élégance et humilité. Un adversaire est couché au sol, le bon joueur, c'est-à-dire le joueur fair play, n'en profite pas pour aller marquer un but, même si les filets sont vides, mais jette le ballon hors du terrain, même si ces derniers se relèvent et font celui marquer un but sans pitié. C'est ça l'esprit fair play. Si le fair play s'applique au sport, il y en a qui veulent faire appliquer le fair play dans la vie, comme si la vie c'est le sport. Man, donc tu profites parce qu'on a affecté le gars là pour récupérer sa go. Joe, les filets sont vides, c'est le moment de marquer le but. La notion de fair play hors du sport s'intègre pourtant dès l'enfance. Lorsque tout petit, vous vous faisiez arracher votre goûter dans la cour de récréation, l'arracheur devrait rester sur ses gardes jusqu'à la fin de l'année. Et le jour où il se ferait arracher son goûter, devrait rester zen. Mais le manque de fair play de certains joueurs faisait souvent la vengeance dégénérer en bagarre. Non monsieur, ce n'est pas moi qui ai commencé. On est entré dans arrache-arrache. Quand il m'a arraché, je n'ai rien dit, j'ai seulement pleuré. Quand moi j'arrache, il me tape. Le fair play dans la vie courante, c'est l'acceptation dans la dignité du but qu'on vous marque pour réduire la marque alors que vous meniez au score. Man, je sais que j'ai même fait comment pour perdre l'argent là. Tu ne veux rien entendre comment? Je prends l'argent ou pour te donner ta part alors que je dis que je n'ai plus l'argent. Tu te fâches même pourquoi? Quand tu m'avais frappé il y a 10 ans en disant que l'argent s'était perdu, est-ce que moi je m'étais fâché? Mon frère, ce n'est pas que je suis rancunier, c'est plutôt toi qui n'es pas fair play. Le fair play, c'est rester calme et serein lorsqu'on égalise au score. Pardon, laisse-moi tranquille. Tu sors avec ma copine Jessica, tu crois que je ne sais pas? Maintenant que je sors donc avec ton meilleur ami Antoine, tu veux te fâcher? Sois fair play mon gars, c'est match nul. Le fair play, c'est accepter aussi que vous soyez mené par un score écrasant. Vraiment, les gens ne sont pas fair play. Quand il passait son temps à draguer ma petite sœur, je lui disais que je ne veux pas ça. Est-ce qu'il m'écoutait? Maintenant que je drague sa mère, il s'énerve que, oh, on ne drague pas la mère de son ami, que c'est la sœur de son ami qu'on drague. Dans la vie comme dans le sport, en toutes circonstances, il faut savoir rester fair play. À vendredi.
Voilà, on reste fair play. Merci Charlotte Tamac. Et à vendredi prochain, merci aussi à Pauline Berthélémy à la réalisation ce matin, Vincent Dublange à la rédaction en chef. Et tout de suite, vous retrouvez Julien Coquel-Rohem pour RFI Matin. Je vous le rappelle, édition spéciale également à suivre ce matin sur notre antenne après l'élection du pape Léon XIV. Une édition spéciale qui débute dans une heure. Excellente matinée à l'écoute de RFI.
Tout à l'heure sur RFI.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Oui, la biodiversité est menacée, mais nous vous emmenons visiter le Conservatoire botanique de Brest et découvrir le réseau de semences organisé par les paysans colombiens, car préserver les plantes, c'est conserver notre avenir.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI.